Et voici donc la revue de presse internationale. Bonjour Camille Magnard.
Bonjour Chloé, bonjour à toutes et à tous.
Vous nous parlez ce matin d'une guerre en modèle réduit dans les montagnes du Caucase.
Une guerre en pointillés, oui, depuis la chute de l'URSS autour du Nagorno-Karabakh, ou on dira plutôt le Haut-Karabakh en français. Car cette région de montagne, qui appartient officiellement à l'Azerbaïdjan, a une population en grande majorité arménienne et russophone, et non azérie et turcophone. Et donc cette région du Haut-Karabakh a fait sécession au milieu des années 90 dans une guerre qui a fait des dizaines de milliers de morts et qui s'est soldée par un cessez-le-feu franchement instable. Et depuis donc 25 ans, la frontière de la République autoproclamée du Haut-Karabakh est l'une des plus militarisées et des plus volatiles d'Eurasie, selon The Guardian, le quotidien britannique, qui décrit des soldats arméniens et azerbaïdjanais de part et d'autre de la ligne de front qui se surveillent constamment, se tirent dessus quasi quotidiennement quand ce n'est pas pire. Et comme c'est pire justement en ce moment par exemple. Depuis 4 jours, la région caucasienne connaît l'un des épisodes d'affrontements les plus violents donc de son histoire. 16 personnes au bas mot ont été tuées dans les échanges de tirs d'artillerie lourde depuis dimanche et la situation ne cesse de se tendre. Ce mardi, selon la BBC World, un bombardement arménien a tué 4 soldats azéris dont un général de l'armée d'Azerbaïdjan. Les Arméniens sur leur radio publique Arm Radio se vantent également d'avoir abattu un drone espion azéri. Bakou, de son côté, affirme que Yerevan cache l'ampleur de ses pertes humaines qui s'élèveraient en fait à une centaine de soldats arméniens tués. Bref, vous le comprenez, comme il y a 4 ans pour la dernière fois, le ressort en spirale du conflit gelé au Haut-Karabakh vient bel et bien d'être libéré à nouveau par ces deux protagonistes. Et difficile de dire où s'arrêtera l'engrenage des provocations et représailles.
D'autant, Camille, que ce conflit très localisé est également relié à des enjeux géopolitiques beaucoup plus vastes.
Oui, comme vous vous en doutez, hein, c'est pour ça que ce qui se passe dans ces montagnes est important pour nous, car derrière la République fantoche du Haut-Karabakh, il y a l'Arménie, on l'a dit, mais il y a aussi derrière l'Arménie, eh bien la Russie et l'Iran. Et derrière l'Azerbaïdjan, eh bien il y a cette fois la Turquie qui déclare dans le journal Hurriyet être prête à soutenir ses frères martyrs azerbaïdjanais avec tous les moyens nécessaires. Or, comme on l'a vu en Syrie et en Libye dernièrement, Ankara et Moscou sont en ce moment dans une logique de concurrence militaire et impérialiste au Moyen-Orient et en Méditerranée. Et donc, il n'est pas si surprenant, analyse Ryan Dimitri de la BBC World, de voir le conflit du Haut-Karabakh réactivé aujourd'hui. Ce qui se passe depuis dimanche entre Arménie et Azerbaïdjan serait donc un échec à nouveau de la diplomatie internationale qui s'active en médiation entre les deux pays depuis 1992 sans réel résultat. Mais à lire l'analyse du quotidien russe Gazeta, on peut se demander si Bakou et Yerevan, tout comme derrière eux Ankara et Moscou, n'ont pas réellement intérêt à se priver de cette arme politique que constitue le conflit plus ou moins gelé du Haut-Karabakh. Pour les dirigeants des deux voisins du Caucase, finalement, rappuyer régulièrement sur le bouton des tensions frontalières, c'est un moyen toujours efficace de ressouder l'unité nationale autour d'un ennemi historique, de faire oublier aussi à leur population l'aggravation de la crise économique, et pour leurs sponsors internationaux, enfin, c'est un moyen de se pousser du col à peu de frais, une monnaie d'échange de plus également dans leurs grandes manœuvres stratégiques, ces grandes manœuvres qui se jouent bien au-delà du Caucase entre la Russie et la Turquie.
Descendons à présent, Camille Magnard, dans le métro new-yorkais.
Et j'espère que vous avez un masque parce que nous explique d'emblée le Wall Street Journal, le Subway, ce n'est pas franchement le bon endroit où l'on peut respecter les gestes barrières contre la Covid, surtout depuis que la mégalopole américaine est sortie de son confinement et que tous les travailleurs sont appelés à rejoindre leur bureau. L'affluence est à nouveau très importante dans le métro new-yorkais. Il y a des tensions de plus en plus entre les usagers, nous dit le Wall Street Journal. Du coup, faute de pouvoir agrandir les rames, eh bien la régie des transports new-yorkais mise beaucoup sur la propreté de ses trains. C'est l'objet d'un reportage de l'agence AP repris par le site d'info Axios. Pour inciter les New-Yorkais à reprendre le métro, le Subway donc tente de les convaincre par tous les moyens nécessaires qu'ils ne risquent pas d'y attraper le coronavirus, que tout est très régulièrement désinfecté. Et le résultat, confirme Axios, eh bien, c'est que le métro n'a jamais été aussi propre, reluisant même. Sauf que si l'effet psychologique de cette propreté éclatante sur les usagers semble réel et rassurant, l'efficacité en termes de destruction du virus, de réduction des risques de contamination, elle, eh bien, elle n'est pas vraiment prouvée. Voilà pourquoi le métro de New York réfléchit, nous dit-on, à traiter ses rames avec de la lumière ultraviolette pour tuer assurément les virus sans brûler les yeux des passagers. En attendant qu'on se le dise, le masque et le gel hydroalcoolique sont les seuls alliés vraiment fiables quand il s'agit de descendre dans le métro.
Eh oui, merci Camille Magnard. Votre revue de presse internationale est à retrouver sur franceculture.fr.